La première, podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La première.
Caroline, on évoque avec vous une première dame des États-Unis qui a fait forte impression à l'époque et encore aujourd'hui, c'est Jackie Kennedy.
Oui, Laurent, son passage à la Maison-Blanche aura finalement été de très courte durée puisque John Fitzgerald Kennedy est entré dans sa fonction de président des États-Unis le 20 janvier 61 et qu'il a été assassiné, comme vous le savez, le 22 novembre 63. Jackie n'aura donc été véritablement sous le feu des projecteurs que pendant deux bonnes années. Mais si on a encore beaucoup parlé d'elle par la suite, évidemment, on a parlé encore de ses enfants, de son second mariage avec l'armateur grec Aristote Onassis. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une exposition qui lui est consacrée, qui se tient à Arlon, au palais Place Léopold. C'est jusqu'au 1er février. Et j'ai demandé à son commissaire, Frédéric Lecomte-Dieu, spécialiste passionné, comme vous allez l'entendre, et biographe de la famille Kennedy, de nous dire ce qui nous était donné à voir exactement dans cette exposition.
C'est une exposition qui traite en fin de compte sur toute l'histoire de Jacqueline Kennedy Bouvier-Onassis. Parce que les Français connaissent beaucoup la vie de Jackie quand elle était à la Maison-Blanche. Mais il y a toute une partie qui est intéressante pendant son enfance et son adolescence. Et ensuite, après les événements de Dallas en 63, elle va rencontrer une autre histoire qui est la sienne, c'est-à-dire la vie d'histoire d'amour qu'elle va vivre avec Aristote Onassis. Jusqu'à sa mort, avec aux côtés d'un Anversois, qui s'appelle Maurice Templeman, en 1994.
Oui, donc on va retracer toutes les périodes de sa vie. Vous avez trouvé des photos, parce qu'il y a 200 photos à voir. Vous avez retrouvé des photos pour chacune des époques de sa vie.
Il faut savoir, le truc de l'histoire sympa de cette exposition, il y a ça des années, je faisais une émission avec Patrick de Carolis en France qui s'appelait Des Racines et des Ailes. Ouais. Et j'avais 20 minutes pour parler des Kennedy en direct, c'était très sympa. Il y avait la reine Farah Diba, je me souviens, sur le plateau. Et puis, à la suite de l'émission, des éditeurs m'appellent en me disant « Frédéric, vous voulez pas écrire un bouquin sur Jackie avec les anecdotes que vous connaissez et tout ?» Parce que le succès de toutes les expos qu'on fait depuis le début, ce sont les anecdotes qu'on raconte à chacune des photos. Et puis, bon, j'étais pas très intéressé par Jackie. Et puis, mais je devais partir à Washington pour préparer une autre exposition sur John Fitzgerald Kennedy, sur Robert, son frère. Et puis, du coup, j'en ai profité pour rencontrer les témoins de Jacqueline Kennedy. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était une femme qui était fantastique. Je l'ai vraiment découvert et c'est un personnage fascinant. Donc chacune des photos, sur les 200 qui sont présentées à Arlon, j'en ai vu à peu près 1000-1500 et j'en ai sélectionné 200 pour que chacune d'entre elles raconte une histoire. Parce que la scénographie de l'expo est la suivante. L'histoire est racontée, elle est écrite, hein, et après on a cherché la photo qui va très bien avec la petite histoire qu'on raconte.
D'accord. Voilà. Alors on l'entend, vous êtes un passionné de la famille Kennedy, vous êtes biographe de cette famille depuis 20 ans, vous leur avez consacré une dizaine d'ouvrages, il y a une exposition L'Amérique des Kennedy qui vient de commencer à Valenciennes, vous avez écrit un one-man show intitulé Dallas, on a tiré sur le président Kennedy à voir début février, on sent qu'ils sont partout dans votre vie, c'est un clan qui est indissociable des mots gloire et tragédie. Ils exercent toujours une certaine fascination sur le public. Vous, Frédéric Lecomte-Dieu, c'est cette destinée tragique qui vous a amené à vous intéresser au départ à eux.
Alors, il y a une phrase. Quand Jackie est interviewée par Life Magazine, il y a le journaliste Theodore White qui lui dit « Madame Kennedy, de quelle manière est décédé votre mari ? Comment ça s'est déroulé à Dallas ?» Et elle lui a répondu « Je préfère vous raconter de la manière dont il a vécu sa vie. » Et hier, j'étais à l'hôtel, parce qu'on vient d'installer l'exposition « L'Amérique des Kennedy » à Valenciennes. Et la propriétaire Ingrid me disait « Frédéric, bon, voilà, vous êtes passionné, ça se sent, on l'entend quand on entend vos conférences, vos visites guidées, etc. Mais quand même, c'est une vie tragique. » Et moi, je lui ai répondu « Je signerai tout de suite. Si je n'avais 46 ans à vivre, mais c'est 46 années que John a vécu, je signe tout de suite. Ou les 43 années de Robert Kennedy. » Parce
Pourquoi ?
Que la première chose qu'a dit son père quand ils étaient enfants, il leur a dit, vous savez, dans la vie, vous pouvez être ou spectateur ou acteur de votre existence. Et le plus important, c'est d'être acteur. Déterminez vos rêves et puis essayez de les réaliser avec vos actions et avec votre courage. Et c'est ce que les enfants Kennedy ont suivi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les enfants ont écouté leur père en disant, voilà papa, tu sais, on n'est pas d'accord sur telle ou telle idée et voilà ce qui nous intéresse. Nous, on pense que les choses sont ainsi. Alors John F. Kennedy, par exemple, il s'est lancé en politique en disant « Pour moi, papa, la nouvelle aventure de ce siècle, c'est pas la conquête des nouveaux continents, c'est la politique. La politique est une nouvelle aventure et je veux faire partie de ce voyage. » Et là, il avait 17-18 ans. Donc, contrairement à ce qu'on a raconté dans les magazines, c'est pas un homme qui s'est destiné à la politique parce que son père lui avait dit. Et quand j'ai travaillé à New York avec Arthur Schlesinger, qui a été professeur à Harvard, c'est un type fantastique, il me disait « Frédéric, si tu avais connu Jack, tu tu aurais compris tout de suite qu'à cet homme-là, on ne pouvait pas lui dire ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire dans la vie. Il avait assez de personnalité pour faire ses propres choix. Et donc, il n'a pas écouté son père. Son père pensait d'ailleurs qu'il allait faire une carrière dans le journalisme. Il avait été envoyé à une conférence à Genève. Bon, il s'était vraiment emmerdé. Il avait dit, écoute, c'est pas mon truc. Plus tard, je serai dans l'édition. C'est d'ailleurs ce que va faire plus tard son fils John John Kennedy. Mais avant tout, comme ce pays nous a accueillis, nos ancêtres, parce qu'on a les Irlandais catholiques, Kennedy et Fitzgerald avaient quitté l'Irlande à un comté qui s'appelle Wexford, parce que la maladie de la pomme de terre contraignait ces gens qui étaient très pauvres à quitter ce pays pour survivre. Quand on est arrivé, on a voulu vivre le rêve américain. On s'est battu pour l'obtenir, et maintenant on a une dette envers ce pays. Et il faut savoir, ça les auditeurs, j'espère qu'ils l'entendront, c'est que l'intégralité des salaires de John, de Robert Kennedy et de Ted Kennedy, leurs salaires quand ils ont été fonctionnaires, ont été reversés à des associations caritatives ou la Ligue contre le cancer. Ils n'ont jamais touché un seul dollar de leur salaire. Alors évidemment, on dit, bah oui, c'était facile parce qu'ils étaient riches. Hein. Aujourd'hui, ils représentent à peu près 250 millions de dollars. Mais les gens qui sont riches, que j'ai rencontrés dans ma vie, j'ai 50 ans, n'ont jamais été obligés de reverser leur salaire intégralement pour une association, vous voyez.
Ouais,
donc ils avaient le cœur, ils pensaient vraiment changer le monde. Et d'ailleurs, Jacqueline Kennedy, quand elle va rencontrer John F. Kennedy dans un restaurant, après un troisième, quatrième rendez-vous manqué, etc. Alors, il est toujours en train de se lever. Hein. C'est quelqu'un qui était excessivement nerveux. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Et dans un restaurant Caravelle, le concierge du restaurant dit « Le sénateur John F. Kennedy demande au téléphone. » Donc, il se levait tout le temps. Alors, elle déjeunait devant un fantôme. Mais à ses côtés, il y avait Robert Kennedy. Et il lui a dit « Vous savez, Jackie, vous allez rencontrer Jack de plus en plus souvent. Je pense qu'il va se passer quelque chose d'important entre vous. » Mais vous ne perdez pas votre temps, parce que mon frère a l'intention de changer l'Amérique. Ce n'est pas du tout d'une manière démagogue qui dit ça, profondément l'Amérique, parce qu'il s'est aperçu, en faisant sa première campagne sénatoriale dans le Massachusetts, en visitant par la suite d'autres États, et nous, on a eu la chance, grâce à la fortune de papa, de pouvoir voyager dans le monde, il y avait des gens qui étaient destinés uniquement à être dans la souffrance et dans le chagrin. Mmh. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on dépense 3 millions de dollars pour ramasser les excréments à Central Park aux États-Unis et qu'on laisse crever de faim des gamins noirs dans le delta du Mississippi. Et ça, quand mon frère s'en est aperçu, il a dit « On peut pas vivre dans une Amérique qui est pauvre, une Amérique qui est riche, il faut que ça soit une Amérique tout court. »
When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in lieu of pearls. And as time came around, she came.
Voilà quelques notes de September Song de Frank Sinatra, Caroline.
Oui, il y aura une chanson qui n'est pas là par hasard, puisque notre invité, Frédéric Lecomte Dieu, biographe intarissable de la famille Kennedy, me disait que c'est une chanson qu'adorait le président Kennedy. Et apparemment, il organisait régulièrement des repas d'une dizaine de personnes loin de la Maison Blanche. Et souvent, en fin de repas, il se levait, se mettait au piano et commençait à chanter. Il paraît qu'il avait une voix magnifique. Et cette September Song serait la dernière qu'il ait chantée en public peu avant son assassinat. Alors on va poursuivre notre entretien à propos de l'exposition. Elle s'appelait Jackie, mais vous l'avez entendu, impossible de parler d'elle sans parler de la famille Kennedy, du contexte politique des années 60. J'ai demandé à Frédéric Lecomte Dieu si à travers elle, ce n'était pas aussi l'histoire d'une certaine Amérique qu'il avait envie de nous raconter.
Il faut savoir que quand Kennedy est arrivé au pouvoir, en 1961, le 20 janvier 61, l'Amérique, on appelait que c'était une Amérique, la génération silencieuse d'Eisenhower. Le général, qui était très respecté, c'est lui qui avait planté le drapeau américain sur la plage des Normandies en disant « Maintenant, nous sommes libres hein. ». Les gens l'écoutaient et suivaient ses ordres. Quand il a donné la guerre de Corée, les gens, les Américains, ont dit oh, « On va en guerre de Corée, c'est tout à fait normal, etc. » Le président l'a demandé. La génération de Kennedy, ça n'a jamais été une génération silencieuse. Ça a été tout de suite une génération réactive. Et c'est pour ça que le président Kennedy, le 20 janvier 61, dit aux Américains « Ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et c'est un message clair en disant, nous, les espoirs de la nouvelle frontière, c'est vous qui les portez. C'est vous qui êtes censé aboutir à ce rêve. Il faut vous remuer. Alors, quand j'ai fait ma première exposition à l'UNESCO, il y a ça des années, en 98, je suis tombé sur un diplomate noir impressionnant qui faisait plus de 2 mètres de haut et il m'a pris dans les bras en me disant, vous savez Frédéric, Robert Kennedy a changé totalement mon destin et mon existence. Parce que quand mon père était à Johannesburg en 66, et quand Robert Kennedy est venu faire un discours, en pleine Afrikaner, hein, avec des gens extrêmement racistes, etc. Il a dit, vous savez, je comprends votre chagrin, votre désespoir, etc. Mais sachez que quand une personne se lève, quand une autre personne se lève, et on l'a vu ici avec Nous sommes Charlie, il y a eu 4 millions de personnes ou 3 millions de personnes en France qui se sont levées, hein, mmh, par rapport à ce qui s'est passé, les événements tragiques du 10 janvier et du 11 janvier. Eh bien, quand une ou deux personnes se lèvent, puis par la suite des centaines, c'est une vague immense qui va contre l'oppression et contre la haine. Soyez déterminés à vivre vos rêves. Alors, il m'a dit, tu sais, mon père était chauffeur de taxi. Et il m'a dit, à partir de maintenant, quand je vais gagner un dollar, la moitié ira pour tes études. Et ce type a été diplômé d'Harvard et maintenant il est diplomate à l'UNESCO. Alors, évidemment, on ne réussit pas toujours. Mais vous savez, Theodore Roosevelt, quand il a perdu son épouse et sa mère, le même jour, il était totalement effondré. Il pensait que la lumière dans son existence s'était échappée. Et ensuite, ses amis sont venus en lui disant, vous savez, Theodore, tu dois te battre dans l'arène. L'arène politique, c'est ce qui t'intéresse. Alors, il a combattu de nouveau, ça a été un très grand président. Mais il a dit, en fin de compte, c'est vrai que la grandeur, elle ne naît pas quand on est au sommet de la montagne. Elle naît quand on est tout en bas de la vallée, qu'on doit remonter jusqu'en haut du sommet. Et là, on s'aperçoit de la magnificence de la vie, de l'existence. Mais c'est sûr qu'on ne réussit pas toujours. Parce que c'est vrai qu'avec mon existence, tout le monde a eu des échecs. C'est avec ces échecs qu'on apprend beaucoup dans la vie. Hein. Mmh. Les gens qui m'écoutent le savent. Mais malgré tout, même si vous êtes courageux, même si vous êtes travailleur, vous pouvez échouer dans la vie. Mais ce n'est pas le plus important, c'est ce qu'il faut comprendre. Le plus important, c'est de savoir que vous ne serez jamais des fantômes. Vous n'allez jamais errer à côté des gens qui ont essayé de parvenir à réussir. Vous avez tenté le coup, comme on dit. Et c'est ça le plus important.
Effectivement.
Plus haut est votre détermination, plus la chute risque d'être difficile et dure. Mais comme disait Robert Kennedy, ça en vaut la peine. Et ça, les gens qui entendent ça doivent se dire, je me lève le matin, je peux être une meilleure personne, un meilleur père, une meilleure maman, etc., un meilleur ami, etc. Je peux écouter davantage le monde qui est autour de moi, etc. Et ça n'a aucune importance si ma vie sera un échec plus tard, puisque j'aurai tout fait pour qu'elle soit une réussite. Et c'est le message des Kennedy, et je pense que c'est un message qu'il faut retenir, parce que c'est un message positif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit des périodes très difficiles, avec des gens totalement inhumains, hein. Ce qui s'est passé en France a été horrible, et ça continuera malgré tout, hein. Ces gens-là sont faits pour emmerder les autres, mais c'est la détermination... Hein, de la bonté humaine, parce que dans chaque personne, il y a forcément quelque chose de très bon. Et si on arrive à faire pousser cette graine, ça c'est magnifique.
Frédéric, le comte Dieu est commissaire de l'exposition. Elle s'appelait Jackie, Caroline.
Oui, moi j'aime assez bien cette idée qu'il relaye de faire grandir la bonté en nous. Alors pour parler plus précisément de Jackie Kennedy, j'ai eu envie de savoir ce qu'elle avait apporté à son mari, John Kennedy, en plus de sa touche glamour, bien entendu. On va entendre sa réponse juste après un très court extrait d'une interview qu'elle avait donnée en français au début des années 60.
Voici la Maison Blanche. Je suppose que cette réception de 2000 étudiants étrangers fait partie de vos obligations de présidente. En avez-vous beaucoup?
Oui, mais vous savez, les obligations sont souvent des plaisirs. Comme aujourd'hui, les étudiants étrangers, ça m'intéresse beaucoup. J'en étais une.
Oui, vous-même étiez.
À quoi?
Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
En dehors de sa touche d'amour, elle va surtout se rendre compte que c'est un homme extrêmement malade. Sa salle de bain est une véritable pharmacie. Il a une jambe plus courte de plus d'un centimètre. Donc il boite, il porte une talonnette. Mmh. Il est complètement myope. Il est sourd de l'oreille gauche. Il est atteint de la maladie d'Addison, donc dégénérescence des glandes surrénales. Et il n'obtiendra que de la cortisone qui a été créée, je crois, elle arrive dans les pharmacies en 54-55 aux États-Unis. C'est pour ça qu'au début, il est très maigre. Hein, vous voyez des photos qui sont très maigres de lui. Et à partir de 56-57, vous avez ce visage très qui est mûrissant, on va dire, et qui a beaucoup plu aux Américaines et les femmes dans le reste du monde. Et Jackie va surtout lui apporter également l'élégance. C'est quelqu'un qui faisait pas attention. Il pouvait partir au Sénat avec une chaussette blanche et une chaussette noire, hein, une chemise dépareillée. Elle va lui apprendre à manger, à se nourrir convenablement. Elle lui dit, avec moi, les hamburgers et frites, c'est terminé. Il faut que tu manges des fruits et des légumes. Hein. Elle va s'occuper beaucoup de sa santé. Elle va faire en sorte que, quand il rentre chez lui le soir, on ne parle pas de politique, on se détend, on écoute Sinatra. Elle fait venir des personnalités importantes de Washington, mais des gens qui sont aussi pas tout à fait importants, mais qui sont intéressants à écouter, etc., qui sont pas connus, des anonymes, mais qui sont intéressants. Et surtout, elle va faire en sorte que son meilleur ami, qui est homosexuel, qui s'appelle Lem Billings, sera totalement intégré dans leur vie de famille. Lem est un personnage que les Français et les Belges ne connaissent pas, mais c'est un personnage qui n'a jamais quitté Jack. Il n'a pas été là le jour de Dallas, mais surtout, il le quittait jamais. C'est le seul qui avait une maison, une chambre en permanence à la Maison Blanche. Et ils s'étaient rencontrés quand ils étaient adolescents dans un lycée très prestigieux qui s'appelle le lycée Coat. Ils ont fait la Java ensemble. Ils sont allés en Belgique quand ils avaient 17-18 ans, en 1937. Et au Touquet, à Boulogne-sur-Mer, à Carcassonne, etc. et tout. Et Lem, qui était homosexuel à l'époque, bah, vous savez, quand vous étiez homo, vous étiez désigné au du doigt, hein, tiens, celui-là, il est pédé, etc. C'était atroce. Et quand ses parents à lui sont morts d'un accident de voiture, son père de mémoire était médecin, Joseph Kennedy, qui est la personne la plus intéressante de tout le clan, c'est la personne pour qui j'ai le plus grand respect, a dit, à partir d'aujourd'hui, mes résidences sont les tiennes, tu es chez toi ici. Et c'est-à-dire qu'on voit pas mal de photos avec Lem Billings et Jack Kennedy. Alors il a porté la bonne humeur, parce qu'à chaque fois le soir où il était avec Lem, bah, il rigolait, il passait du bon temps. C'était ça aussi les Kennedy, c'était prendre la vie comme elle vient et profiter de chaque journée comme si c'était la dernière.
Oui, bah heureusement, on a envie de dire qu'il en a beaucoup profité. Alors, vous évoquiez le côté bien éduqué de Jackie Kennedy, et c'est vrai qu'on la voit aux côtés de son mari comme étant une dame parfaite, intelligente, consensuelle sans doute. Et pourtant, après la mort de JFK, elle a fait enregistrer des confidences par le grand historien Arthur Schlesinger, c'était en 64, des confidences qui ont été rendues publiques en 2011. Et Jackie n'y est pas tendre, finalement, vers ceux qu'elle a rencontrés, que ce soit le général de Gaulle, Indira Gandhi, Martin Luther King. Ça vous a étonné, ça?
Non, contrairement à ce qu'on pense. Jackie, vous savez, elle avait une voix très fluette, elle parlait doucement, c'était une voix assez étrange. Et ça lui donnait énormément de fragilité. Quand on était face à elle, quand on lui parlait, on avait l'impression d'être en face d'une femme qui était très fragile. C'était tout le contraire, c'était une femme très forte, avec une très très forte personnalité. Elle était capable de demander $1 million à un banquier comme André Meyer, de la banque Lazare. D'ailleurs, elle a obtenu le chèque 48 heures après. C'est une femme redoutable dans les affaires. Quand elle fait venir la télévision CBS à la Maison Blanche, elle s'est payée les droits. Elle dit, écoutez, vous allez diffuser cette émission sur 133 pays, alors on peut négocier ces droits. Et l'argent a permis de restaurer la Maison Blanche et d'éviter que le Congrès saute à la gorge du président Kennedy en disant, mais qu'est-ce que fait votre épouse, etc. Ça coûte trop d'argent, ces travaux. C'était une femme redoutable et c'est vrai qu'elle a pris la défense de son mari par rapport au général de Gaulle. Général de Gaulle, c'est un personnage fascinant, hein, fantastique, mais c'est vrai que De Gaulle, lui, évidemment, il défendait les intérêts de la France et son mari défendait les intérêts des États-Unis. Et ils n'étaient pas dans la même enveloppe, on va dire. Alors c'est sûr qu'elle a eu des propos très durs avec lui. Et puis après, elle était très coquine. Vous savez, c'est une femme. Son garde du corps s'appelle Clint Hill, et je vous raconte une petite anecdote avec lui. Quand il est chargé de la protection de la First Lady, pour lui, c'est une tragédie. Il a protégé des hommes pendant toute sa vie et d'un seul coup, il est avec une femme. Et il s'est dit, ça y est, bon Dieu, maintenant je vais faire du shopping pendant 3 ans, ça va être une catastrophe. Hein. Et alors donc il boude, comme un bébé. Et puis, ils partent en voiture en février-mars 61, ils vont dans une maison qu'ils ont louée, les Kennedy, qui s'appelle Glen O'Hara, parce que Jackie est passionnée par l'équitation, mais surtout, elle adore la chasse à cour et la chasse au renard. Personne ne le savait. Et c'était pas un sport populaire. Alors Jack lui avait dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais très loin de Washington. Mmh. Alors ils sont en route dans la voiture. Elle fait arrêter la voiture au bout d'une heure, et elle lui dit, Clint, vous fumez? Alors il dit oui, vous voulez bien sortir 2 minutes? Alors ils sortent comme ça dehors, et lui il se dit, ça y est, bon, elle va me demander de quitter la Maison Blanche parce que je boude comme ça pendant 2 mois. Elle dit, vous me proposez pas une cigarette? Il lui allume une cigarette, et là dans sa biographie il va dire, j'ignorais totalement que Jacqueline Kennedy, elle fumait. Et en fin de compte, je découvre qu'elle avait des secrets. Et là, elle le regarde en face, elle dit, vous semblez très étonné, j'ai plein de secrets, et on les connaîtra ensemble.
And since we know we're all changing, how can it be the same?
And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear his name.
How do you keep the music playing, Caroline?
Ben oui, je voulais vous faire entendre la version par Frank Sinatra et Quincy Jones, mais c'est ici Quincy Jones, James Ingram et Patty Austin. C'était donc un petit clin d'œil au président Kennedy à travers Frank Sinatra. Sachez que cette chanson est interprétée par Frédéric Lecomte Dieu, notre invité du jour, dans son one-man show intitulé Dallas. On a tiré sur le président Kennedy, à voir le 6 février à 20h à l'Auditorium Saint-Nicolas de Valenciennes. C'est gratuit, c'est pas si loin, donc n'hésitez pas. Et puis là, n'hésitez pas à aller visiter aussi cette expo. Elle s'appelait Jackie. C'est jusqu'au 1er février au Palais Place Léopold à Arlon.